Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous sommes avec vous en cette fin de week-end. Bonjour tout le monde, nous espérons que vous allez bien. Enfin presque bonsoir, puisqu'il est 18h passé déjà de 2-3 minutes. Bonjour Pierre.
Bonjour ma loulou, comment ça roule?
Alors ça roule bien, mais vous êtes un peu loin jeune homme. Je ne sais pas où vous êtes en train de rouler en ce moment, mais on va rouler avec vous. Alors, au sujet de notre rendez-vous ce soir, eh bien, nous allons évoquer dans quelques minutes les vols des voitures, Pierre Chasseret.
Oui, les vols de voitures, parce que pendant le confinement, on a continué à voler des voitures. Que se passe-t-il depuis cette sortie de confinement? On le sait tous aussi, Laurence, eh bien, lorsque la nuit tombe beaucoup plus tôt, ce qui est le cas actuellement, notamment depuis le changement d'horaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile pour les voleurs, donc on peut avoir davantage de véhicules volés. On verra tout ça avec le numéro 1 pour vous protéger. C'est Coyote Secure, des petits systèmes qui vous permettent de traquer votre véhicule pour le suivre, y compris quand vous le faites voler. Ça sera le bon conseil du jour et surtout, on va vous donner toutes les astuces pour faire en sorte de ne pas vous le faire voler, bien évidemment.
Et puis, nous aurons également avec nous une dépanneuse, oui, une femme, Christine Delaunay, qui fait partie des Dépanneurs et Fils. Ils sont situés à Varennes-Jarcy, dans le sud de l'Essonne. Et c'est une maison de dépannage qui suit les voitures volées à partir du moment où la police fait appel à eux. Elle les accompagne à la fourrière. Elle nous racontera un petit peu tout le parcours de ces voitures volées. C'est peut-être ce qui est arrivé à la vôtre précédemment. N'hésitez pas d'ailleurs à venir témoigner au 0826 300 300. Nous avons bien sûr notre rendez-vous c'est la fin de l'émission avec l'échange Pierre Chasseret. Vous voulez parler d'une des politiques, vous voulez parler de ce qui se passe concernant la politique routière, ce qui vous amuse, ce qui vous énerve, ce qui vous agace. Vous nous rejoignez dès maintenant au 0826 300 300. Nous en parlerons aussi, mais tout de suite le premier sujet pour lequel je vous propose d'interagir en notre compagnie, y compris sur la page Facebook de Sud Radio, c'est une fois de plus, ce qui revient à la une, les personnes âgées de plus de 65 ans devraient normalement devoir passer, selon 75% des Français, une visite médicale tous les ans pour pouvoir conduire.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et oui Pierre, c'est une étude qui est parue par Décra, qui dit beaucoup de choses, et entre autres que 75% des Français veulent que les personnes âgées de plus de 65 ans passent une visite médicale pour prendre le volant. D'accord, pas d'accord, on vous attend au 0826 300 300. C'est un sujet qui revient régulièrement Pierre.
C'est un sujet qui revient tous les ans. Alors dans les médias, on appelle ça les marronniers, c'est-à-dire que tous les ans, à la même époque, ça revient. Sauf que là, franchement, on va trop loin. Pourquoi? Parce qu'à partir de 65 ans, franchement, est-ce qu'on est vieux en France à partir de 65 ans? Je ne comprends pas ce sondage. Alors j'ai essayé de tester, parce que là, c'est vous qui le dites. Vous tous qui nous écoutez, vous cherchez des mesures répressives en tapant sur ceux qui ne sont pas vous. Parce qu'en fait, on va diviser la France en deux. Il y a ceux qui ont plus de 65 ans et qui disent « bah non, on va quand même pas m'enlever mon permis ». Donc eux, ils disent « non, il ne faut pas remettre mon permis en question ». Et puis, il y a ceux qui sont plutôt jeunes et qui se disent « ah ben oui, les autres pourraient passer un examen qui remet en question leur permis de conduire ». Eh bien, à tout cela, j'ai envie de dire, ne le dites pas trop fort, parce que le jour où ça va arriver, un jour, on aura tous 65, 70, et le jour où on nous privera de notre mobilité, eh bien, on sera beau, confinés à l'intérieur de chez nous, à ne plus pouvoir sortir.
On va d'ailleurs vous donner des solutions. Alors évidemment, il y aurait peut-être la possibilité de façon répressive de faire en sorte que les personnes de plus de 65 ans soient obligées de passer des visites médicales. Et puis il y a des gens qui sont dans le bon sens, il y a des gens qui sont intelligents et qui travaillent dans l'autre sens, de se dire plutôt que d'obliger, eh bien accompagnons. On va accueillir tout de suite Patrice Bessonne qui est le représentant auprès du CNPA des auto-écoles. CNPA, c'est le Comité National des Professionnels de l'Automobile. Bonjour Patrice.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs, merci de m'accueillir.
Merci d'être Salut, avec Patrice. Alors Patrice, vous, avec les auto-écoles de France, vous avez mis au point quelque chose qui est d'une intelligence rare, expliquez-nous.
C'est gentil, merci. Très rapidement, oui, je vais vous dire ce qu'on fait. Alors, tout à fait d'accord avec Pierre et avec vous Laurence, le bon chemin, c'est pas le chemin de la répression vis-à-vis de ce public-là. Ce ne sont pas des enfants. Il faut être respectueux de nos seniors. Donc, comment faire pour leur permettre de garder la mobilité en sécurité? Notre schéma, c'est maintien de la mobilité en sécurité. Qu'est-ce que nous faisons? On voit de plus en plus que les médecins nous envoient des seniors de plus de 70 ans, en règle générale, non pas pour leur supprimer le permis, mais pour leur permettre de maintenir leur mobilité en sécurité. Et qu'est-ce que nous faisons ? Un audit de conduite, ça dépasse pas l'heure, en règle générale. Et c'est les auto-écoles de proximité, pourquoi elles peuvent faire ça ? Parce qu'elles sont sur la proximité où le senior va conduire. En règle générale, les seniors, vous savez, ils vont dans des espaces santé ou dans des centres commerciaux. Donc on vérifie le trajet avec eux. On leur dit, montrez-nous par où vous passez. On vérifie la prise d'information, parce que chez les seniors, c'est ça qui peut être un peu plus délicat que chez des personnes qui ont des facultés un peu plus importantes. Et vous savez que la conduite, c'est quand même la prise d'information. Donc on vérifie qu'ils soient pas trop dans des chemins serrés. Autrement, on leur permet de changer de parcours, de prendre des voies plus larges. Et surtout, on vérifie qu'il n'y ait pas trop de tournées à gauche. Vous savez, l'accidentalité en ville, c'est souvent sur des tournées à gauche. D'accord. On essaye de garder des tournées à droite.
Mais quel que soit l'âge, Patrice, quel que soit l'âge, l'accidentologie du tournée à gauche ?
Ah, bien entendu. Okay. Quel que soit l'âge, c'est toujours une manœuvre. Tourner à gauche, c'est une manœuvre, Laurent.
Tout à fait.
Et donc, il faut laisser la priorité en face. Il faut voir qu'il n'y ait pas... Maintenant, on a multitude de publics qui circulent sur les routes, les trottinettes, les vélos électriques, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est toujours une manœuvre délicate. Donc, on voit ça. Et puis, souvent, il ne faut pas oublier que les seniors viennent avec leurs enfants. Et donc, on fait un bilan ensemble. Et souvent, ils repartent rassurés, parce que je vous rappelle qu'on enlève la mobilité à un senior en province, c'est quasiment le condamné à mort, il se laisse glisser, vous savez, le fameux glissement des seniors. Donc, nous, on est sur ce schéma-là, et on va, d'ailleurs, avec l'aide de DECRA, hein, parce qu'il faut les féliciter sur cette étude, avec l'aide de DECRA, on va, en janvier, à partir de 2022, lancer une grande campagne de communication sur la possibilité par les auto-écoles de proximité du maintien de la mobilité en sécurité pour les seniors.
Ah,
voilà, je vous le dis à votre antenne, on en a marre de voir un peu le fait de monter les Français les uns contre les autres.
Mais on est complètement d'accord.
C'est pas ça la solution.
On est d'accord, Patrice.
C'est pas de monter les conducteurs jeunes avec les plus anciens.
Patrice Besson. Pierre, on va tout de suite donner aussi la parole à Bernard Darniche qui nous rejoint sur Sud Radio et qui va nous donner aussi sa façon de voir les choses sur cette fameuse étude d'ECRA, si tu le veux bien. 75% des Français disent être favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Bernard Darniche, bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous et bonjour à...
Salut Bernard.
À Patrice
oui,
Besson.
D'auto-école qui manifestement a compris que le bon sens était quand même à ses niveaux de conseil sur ce type de personnes, et j'en fais partie. Le bon sens et le dialogue est plus important que la répression et l'obligation.
Totalement d'accord. Votre avis, du coup, parce que...
Mon avis, déjà, pour avoir des, entre guillemets, j'en fais partie, des seniors en bon état d'être mobiles d'une façon sereine et durable, il faudrait d'abord que les jeunes soient formés d'une façon ad hoc. Je vais vous citer un seul exemple. Aujourd'hui, quand on passe le permis de conduire, avec des normes qui sont des normes moyenâgeuses au niveau de l'exigence de la vision, on en est à 5 dixièmes à chaque œil, et je vous garantis que quand vous faites une simulation de 5 dixièmes à chaque œil, vous avez l'impression d'être miro. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors déjà, si on pouvait remonter le niveau d'exigence de la vision sur les jeunes, et qu'on leur fasse, ou qu'on leur demande d'une façon mécanique, avant d'aller passer le permis de conduire, un examen de la vision, ce serait déjà un premier très grand pas.
Oui, mais alors, pour le coup, excusez-moi Bernard, mais là on parle des personnes âgées et de ce que pensent les Français.
Oui, mais un jeune, vous savez qu'un jeune, ça va devenir une personne âgée. Hein.
Oui, on est d'accord, mais du coup, quel est le problème? Parce que si le jeune, il voit mal, quand il sera âgé, il verra mal aussi. Donc ça veut dire quoi?
C'est pas qu'il verra mal, il sera miro, c'est autre chose.
Oui, mais donc ça veut dire quoi, Bernard? Vous êtes pour le fait qu'à plus de 65 ans, on passe une visite médicale pour conduire, y compris ne serait-ce qu'une visite visuelle?
Tout. Moi, vous savez, j'ai travaillé avec les Japonais qui ont des centres qui s'appellent Autocampus au Japon. Il y en a 1400. Le médecin traitant, les familles, etc. Il n'y a rien d'obligatoire. Rien d'obligatoire. Les gens viennent s'auditer. Les seniors, les autres, hein, d'ailleurs, les jeunes, etc. Parce que on parle des seniors, mais il n'y a pas que les seniors qui ont des problèmes de mobilité sereine. Hein. Très honnêtement, il suffit de se promener un peu sur la route et on voit le bordel, parce que c'est quand même un vrai bordel. On se demande à quel moment un inspecteur du permis de conduire a donné l'autorisation à certaines personnes de conduire, et je parle de jeunes. Hein. Mais les seniors, c'est autre chose. Les seniors, ce sont des gens responsables à qui on peut parler, à qui la famille a du mal à parler. Donc il faut qu'il y ait un dialogue avec des gens qui soient des gens crédibles, et des gens de l'extérieur, comme ce monsieur de l'auto-école par exemple, ou d'autres systèmes, qui leur apportent des solutions à des problèmes, et non pas les mettre devant des interdictions. Des solutions à des problèmes, il y en a quasiment pour toutes les réponses, pour toutes les réponses de gens qui sont en santé physique normale. Moi, ce que je n'accepte pas aujourd'hui, mon âge, tout le monde le connaît, je vais avoir 80 balais l'année prochaine, je viens encore de gagner un rallye à Monte Carlo Énergie Nouvelle, là. Je me sens agressé quand on me dit, quand on me parle d'un coupé directement lié à l'âge. Je me sens agressé, et vraiment, hein, parce que j'ai plein de copains de mon âge qui font du sport comme moi, qui sont en parfait état physique, et quand on leur tient ce discours, mais on se dit, mais taisez-vous, prenez, occupez-vous de vous-même et foutez-nous la paix. Voilà ce qu'on entend.
Pierre.
Oui, ben voilà, Bernard, c'est le bon sens sur ce coup-là, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vient ramasser le lait répandu. Si on apprend à tout le monde à suivre sa vue dès le départ, je suis très favorable au contrôle de la vue dans le cadre du permis de conduire. Parce que ça va permettre tout au long de la vie de faire suivre sa vue. Et quelqu'un qui voit et qui est habitué à avoir des lunettes à sa vue, eh bien, lorsqu'il vieillit, il n'est pas plus dangereux que les autres. D'ailleurs, Laurence, très clair. Si on devrait autoriser uniquement ceux qui posent le moins de problèmes en termes de sécurité sur la route, eh bien, on n'aurait plus que des femmes entre 35 et 45 ans, parce que toutes les autres catégories d'âge sont les plus impliquées en tant que fautives sur les accidents de la route. Et je rappelle quand même que les plus de 75 ans, c'est la tranche de la population qui est le moins responsable d'accidents sur la route, Laurence.
Ce que je vous propose,
moins de 1% de seniors impliqués dans un accident mortel.
Bernard, on en reparle dans quelques instants. Première pause de notre rendez-vous. N'hésitez pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est un sujet qu'on ne va pas lâcher. 0826 300 300. Je vous rappelle cette étude qui a été faite par DECRA. 75% des Français sont favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Et vous en pensez quoi? Le standard a explosé. Dans quelques instants, nous aurons également Jean-Pierre qui veut donner son avis au 0826 300 300 et n'hésitez pas, on vous entend, on vous écoute, vous avez la parole sur Sud Radio.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Nous avons ce sujet qui revient régulièrement et cette année une fois de plus avec cette étude réalisée par DECRA. 75% des Français, c'est pas rien, seraient favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Vous en pensez quoi ?
Ils ne sont pas posé la question.
C'est ça. Mais c'est dingue, 75%, Pierre.
Non, mais c'est pas normal. En fait, vous savez, quand on pose une question dans une étude, très souvent, la réponse qui est attendue est déjà dans la question. Si on demande à quelqu'un, est-ce que vous pensez pour la sécurité que ce serait bien d'avoir un contrôle médical ? Bon, on répond oui. Par contre, si vous dites en question, est-ce que vous êtes d'accord pour que le jour où vous êtes senior, on vous empêche de circuler ? Ben, la réponse sera non. En fait, c'est des sondages qui enfoncent des portes ouvertes avec des pieds de biche, mais qui au final, malheureusement, eh bien, n'apportent pas grand-chose, si ce n'est qu'elles désignent, elles pointent du doigt, elles stigmatisent les seniors, et ça, je trouve ça dégueulasse. Ça m'énerve parce que aujourd'hui, si demain on prive de la mobilité quelqu'un, eh bien vous lui enlevez tout. Il peut plus faire ses courses, il peut plus aller chez le médecin, il peut plus voir ses petits enfants. Donc la mobilité, c'est essentiel. L'inverse de la mobilité, c'est le confinement. Merci, on a donné.
Alors on va accueillir tout de suite Jean-Pierre, lui qui nous appelle au 0826 300 300. Je garde Bernard Darniche bien au chaud, qui réagit dans notre rendez-vous. Nous avons aussi Patrice Besson, qui est le patron en fait auprès du Comité national des professionnels d'automobile, de tous les professionnels de l'auto-école, qui nous explique ce que font certaines auto-écoles pour accompagner les seniors vers la possibilité de continuer de conduire, mais en douceur, en prenant conscience. Mais tout de suite, c'est Jean-Pierre qui nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre, et puis bonjour Bernard.
Oui,
petit aparté, moi, il y a quelques années, j'étais en vacances au Pérou, et au Pérou, ils retirent le permis de conduire à 60 ou 65 ans.
Ah bon ? Ils ne peuvent plus pour, ils ne peuvent plus conduire après 65 ans.
Par contre, il y a beaucoup de petits taxis qui coûtent 2 francs 6 sous pour se balader dans les villes.
Attendez, vous êtes en train de nous dire, Jean-Pierre, qu'au Pérou, à partir de 65 ans, vous ne pouvez plus conduire?
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit en 2007.
Oh!
Ouais, à vérifier, hein, parce que en fait, ce qui se passe, Jean-Pierre, on a regardé, on a comparé les pays européens qui pratiquent des contrôles pour les seniors, et on a comparé en termes de sécurité routière à la France et à l'Allemagne, qui n'en pratiquent pas, qui ont cette particularité-là. Eh bien, les données en termes d'accidentalité sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez mettre tous les examens du monde, ça change rien aux chiffres de la sécurité routière, et pour une raison toute bête, Bernard le rappelait, et je le disais aussi, la catégorie d'âge qu'on stigmatise n'est pas celle qui crée des accidents sur la route.
Mais Bernard, je sentais que vous vouliez réagir à ce que nous apprend Jean-Pierre.
Il faut pas confondre gêne potentiel et accidentologie et danger potentiel. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui peut être gênant, et j'en conviens parce qu'il roule plus doucement que nous, on a décidé de rouler, et il est gênant. On ne peut pas le qualifier de dangereux à partir du moment où il est bien à droite, qu'il conduit sa voiture en respectant les règles, mettre son clignotant quand il veut tourner, etc. Il n'est pas dangereux. Par contre, si on veut outrepasser sa façon de conduire, nous, par des gestes normaux de quelqu'un qui travaille, parce que la route, c'est quand même un grand chaudron où on mélange tout le monde, des gens qui sont actifs, d'autres inactifs, ceux qui se promènent, ceux qui... Enfin, c'est un endroit où la société vit. Et pour que la société vive bien, il faudrait qu'au-delà des règles, on parle civisme, vie en commun. Et ça, dans les auto-écoles, on n'en parle pas assez. La vie en commun, et ça doit commencer dans une cour d'école.
Une cour d'école. Bernard, Pierre, Patrice et Jean-Pierre qui nous appellent de Montpellier. Je suis en train de rechercher des informations pour le Pérou. Pour l'instant, je ne les trouve pas. Mais par contre, ce que l'on sait avec Pierre à 40 millions d'automobilistes et à Sud Radio, c'est que la France est quand même un pays un peu particulier dans le sens où c'est l'un des seuls pays où il n'y a pas besoin de repasser ce qu'on appelle des certificats d'aptitude. D'autres pays, vous êtes obligés de repasser. Il y a des limite d'âge à l'aptitude à la conduite, Patrice Bessonne.
Oui, tout à fait, Laurence, pour répondre à Bernard, ça c'est la vision d'avant. Dans les écoles de conduite de proximité, il faut faire une différence maintenant, hein, parce qu'il y a une différence de qualité et de formation. Dans les écoles de conduite de proximité, celles qui ont des salles de cours, le partage de la route est indiqué. Aujourd'hui, il fait partie du code de la route. On ne peut plus aujourd'hui circuler si on n'a pas compris qu'il faut partager la route avec tous les autres usagers. Et je parle des usagers aujourd'hui, comme je le dis à chaque fois dans mes cours théoriques, qui sont des vélos électriques. Vous n'avez qu'à circuler à Paris, vous allez comprendre qu'il y a une multitude de vélos électriques et de trottinettes. Et donc il faut prendre et intégrer que la prise d'information est importante là-dessus. Donc pour répondre à Bernard, ça, c'est fait dans les écoles de conduite de proximité et c'est de mieux en mieux fait, plus qu'on fait maintenant des formations, on appelle ça en e-learning, c'est-à-dire asynchrone et synchrone avec les élèves. Donc ça, là-dessus, non. Bernard, ça se faisait pas avant. Aujourd'hui, ça se fait. Par contre, là où je suis d'accord avec Bernard, c'est qu'avant, il y avait un contrôle de la vue par l'inspecteur du permis de conduire.
Mais je suis d'accord.
Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et là, je suis d'accord avec Bernard, c'est bien dommage.
Alors, on a Dominique, excusez-nous. Attendez, Bernard, parce qu'on a Dominique aussi qui appelle, juste après, mon Bernard. Dominique nous appelle du Roussillon, et je crois qu'il est un peu pressé. Bonjour, Dominique.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Pierre, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Ouais, alors moi je suis psychologue et je voudrais intervenir sur le sujet qui me touche particulièrement. Il faut faire un peu d'analyse systémique, c'est-à-dire qu'on est en train de discuter d'une mesure qui pourrait être décidée par des députés, donc par un texte de loi, et il faut vraiment aller au bout du bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre mon exemple personnel, j'ai un problème de vue, c'est-à-dire que je vois très bien, mais je sens que ma vue baisse. Donc j'ai décidé de consulter un ophtalmo. J'aurai mon rendez-vous le 22 juin. Donc ça veut dire que, imaginons que j'ai 65 ans et que j'ai ce problème à 65 ans. Je décide d'aller faire ce stage de mise à niveau. Et là on me dit, ah non, mais attendez, vous avez un petit problème de vue. Donc vous arrêtez de conduire. Je vais arrêter de conduire jusqu'au 22 juin. parce que je ne pourrais pas voir d'ophtalmo avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déshabillé le pays de toute son infrastructure médicale, de toute son infrastructure d'accompagnement. Et donc, quand on prend une mesure comme celle-là, il faut aller au bout du bout et se dire, est-ce que l'on va pénaliser des gens alors qu'on n'a pas les moyens de les accompagner, on n'a pas les moyens de les aider? Et je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge s'élève, que les gens à 60, 65, 68, 70 ans sont les quinquas d'il y a 30 ans.
Et on
va leur dire aujourd'hui, non, vous êtes des personnes âgées et vous n'avez plus le droit de conduire pour telle ou telle raison, mais on n'a pas les moyens de vous faire des lunettes, on n'a pas les moyens de vous accompagner, on n'a pas les moyens de vous faire des remises à niveau parce que c'est trop cher.
Qu'est-ce qu'on propose d'autre? En fait, c'est ça la vraie question, Dominique.
Mais ça a été dit, c'est pas l'accidentologie aujourd'hui, la problématique de la route aujourd'hui. Est-ce que ce sont les personnes âgées? Faux. Oui, à partir de 75-80 ans, effectivement, moi j'ai eu ma maman, je lui ai retiré le permis. Je lui ai dit, écoute maman, c'est plus possible, à 80 ans,
oui, mais voilà.
Tu tournes plus la tête,
Dominique,
tu grilles les scopes.
Et ça, c'est intéressant. Vous avez une implication, une responsabilité en tant que famille, et il y a l'autorégulation chez les personnes âgées. Moi, j'ai des voisins que j'adore, mais ils se servent plus de leur voiture, ils ont même vendu la voiture parce qu'en fait, ils n'ont plus le besoin, ils ne s'estiment plus en capacité de conduire en sécurité. Mince, les personnes âgées ne sont pas des débiles, ce sont des gens qui ont conscience de leurs capacités
et
qui vont s'autoréguler. Et pour d'autres, eh bien, il y a la responsabilité des enfants. Ils doivent être en
allons
mesure
plus loin,
de regarder
Pierre,
leur
allons
père,
plus loin.
Leur mère, et de dire ben, « Maman, papa, il y a un problème ».
Allons plus loin, allez-y Dominique.
Allez-y, moi j'habite en Roussillon. Venez voir si aujourd'hui le système de transport en commun de village à village ou de ville à village est réaliste. C'est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a absolument plus aucun maillage du territoire en termes de transport urbain ou périurbain, et on va se retrouver avec des gens qui sont totalement isolés. Ça veut dire qu'on doit repenser tout cela en amont, bien en amont, et c'est un phénomène de société, et peut-être que là, oui, on pourra commencer à se poser les bonnes questions et dire, ben voilà, on peut permettre à des citoyens qui ont 70, 75 ou 80 ans de continuer à vivre une vie normale, entre guillemets, et non pas leur imposer quelque chose qui les rend, comme par exemple le pass sanitaire, dont on n'a pas du tout évalué les conséquences. Je rencontre aujourd'hui tous les jours des enfants qui sont complètement atterrés psychologiquement, et aujourd'hui on va faire la même chose par exemple avec les personnes du troisième âge. Non, la problématique par exemple aujourd'hui, ce sont ceux qui grillent les bandes blanches parce qu'il y a des gens qui roulent à 60 là où c'est à 80 et qui s'impatientent derrière. La problématique elle est là, et c'est ceux-là qui comprennent un vrai danger.
C'est pour ça,
Patrice Besson du CNPA Auto-École.
Oui, c'est pour ça que le CNPA prend toute sa responsabilité et sa part pour justement maintenir la mobilité par rapport à ce que votre auditeur psychologue vient de dire. Nous n'acceptons pas la coercition, nous acceptons
parfaitement
pas que les seniors puissent être abandonnés dans les provinces où il n'y a pas de transport public, et nous serons présents. C'est l'auto-école,
alors,
la responsabilité
de l'auto-proximité
pour pouvoir continuer à maintenir la sécurité des seniors. Quand vous parlez
Patrice,
de contrôler avec la tête, juste une chose.
Non, mais c'est parce que je voulais vous donner plus de temps. Patrice, je vais vous donner un peu plus de temps dans moins de 2 minutes, si vous le voulez bien.
D'accord.
Là, on est obligé de faire la pause. Dominique, merci beaucoup de votre intervention. Avec Patrice et avec Pierre, pour conclure ce sujet, on va rappeler ce que certaines auto-écoles mettent en place, et je trouve ça tellement intelligent que je veux qu'on insiste sur l'information. Dominique, merci beaucoup d'être intervenu. Je vous sens essoufflé, vous devez marcher. Merci aussi profitez-en bien, à Jean-Pierre de Montpellier, à monsieur Bernard Darniche aussi d'avoir été avec nous. On revient sur ce sujet dans quelques instants et ensuite on passe au vol des voitures. Vous êtes avec Ça Roule, et j'espère que ça roule bien pour vous en ce dimanche soir. Prenez soin de vous pour ces rentrées de week-end. Et puis, eh bien vous savez, sur Sud Radio, vous êtes attendu. 0826 300 300 pour réagir à tous nos sujets.
Sud Radio Ça Roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et si vous nous joignez à l'instant, sachez que nous évoquions cette étude réalisée par DECRA qui annonce que 75% des Français sont favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Mais également, eh bien, que les idées reçues, on va leur donner quand même un grand coup de couteau. Les personnes âgées sont moins souvent à l'origine d'accidents mortels que les autres conducteurs, moins de 10% des cas contre près de 20% pour les 18-24 ans. Alors Pierre, pour conclure ce sujet, avant de passer au sujet des vols de voitures, nous sommes toujours avec Patrice Besson qui représente auprès du Comité national des professionnels de l'automobile les auto-écoles de France. Et on voulait juste bien rajouter, Patrice, et expliquez-nous en deux minutes maintenant de façon très, très, très claire comment les auto-écoles fonctionnent pour les personnes passées un certain âge.
Les auto-écoles de proximité ont pris leurs responsabilités au sein du CNPA à partir de janvier 2019. On va faire, parce qu'il faut que tous les seniors le sachent, on va faire une grande information là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait des audits de conduite, souvent d'ailleurs amenés par les médecins traitants, pour les seniors qui ont entre 70, 80 et au-delà. Et dans cet audit, on leur permet de continuer à maintenir leur mobilité en sécurité. On choisit, on vérifie les trajets qu'ils font au quotidien. C'est pour ça que c'est une auto-école de proximité qui fait cet audit, qui dure pas plus qu'une heure. Et à ce moment-là, avec la famille, avec les enfants, on vérifie que le chemin emprunté pour aller au médecin, pour aller faire les courses, sont des chemins à grande visibilité, c'est-à-dire pas des petits chemins, pas des petites routes sinueuses, et surtout on évite les tournées à gauche qui sont toujours cause de problèmes sur la prise d'information et de manœuvre. On sélectionne plutôt les tournées à droite et les familles sont rassurées. Ça veut dire que la mobilité peut être maintenue en sécurité adaptée pour les personnes âgées, et en règle générale, les seniors sont super satisfaits. Ils disent oui, on a pris des astuces. Tournez la tête. J'ai entendu un de vos auditeurs dire c'est compliqué de faire tourner la tête. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que si vous avez un rétro adapté en baissant vers le rétro extérieur votre buste, vous contrôlez la totalité de l'angle mort.
Ouais, ouais, ouais.
Suivant le positionnement de la
Patrice,
voiture à une intersection,
Patrice,
vous avez la visibilité.
Patrice.
C'est toutes ces astuces qui sont données.
Patrice, qui est plus bavard que moi sur l'antenne de Sud Radio. Si on veut, mais non, mais évidemment, vous êtes le bienvenu. Si on veut, les gens qui nous écoutent aujourd'hui partout en France sur Sud Radio, découvrir les auto-écoles qui font ce genre de choses, est-ce qu'il y a une liste ?
Oui, il y a une liste.
Où est-ce qu'on la trouve ?
Les auto-écoles CNPA le font. Je vais donner un numéro de ma collaboratrice.
Alors ça, à l'antenne, on ne va pas le donner parce que je ne veux pas qu'elle ait d'autres appels aussi, etc. Non, mais un site internet ou quelque chose,
oui,
ça serait plus simple.
Le site du CNPA.
Ok, CNPA.
Conseil National des Professions de l'Automobile. Il y a un site générique. Ils vont dans l'onglet école de conduite et ils mettent leur message et on le traite, ou le Facebook du CNPA école de conduite,
et
ils auront les coordonnées de ma collaboratrice.
Merci beaucoup Patrice. Merci Pierre.
Très, très heureux de vous donner
juste un point à ce que dit Patrice, c'est qu'il faut penser à une chose quand on répond à ce genre de questionnaire, il faut répondre en pensant à ce que c'est que la dépendance. La voiture, c'est la mobilité, mais c'est surtout notre indépendance. Et lorsque vous avez des parents qui peuvent vivre dans leur petite maison, qui peuvent être indépendant. Il ne faut pas leur enlever, il faut leur protéger leur mobilité, parce que sinon on les place dans la dépendance. Et ça, il n'y a rien de plus catastrophique pour les gens qu'on aime. L'indépendance, et toi tu en sais quelque chose, hein, Laurence, parce que tu as eu la chance d'avoir une mamie en pleine forme pendant des années. Garder nos proches indépendants le plus longtemps possible, c'est la plus belle des valeurs. Et dans les petits villages, on a besoin de notre mobilité, de notre voiture.
Voilà, exactement. Voilà, on voulait parler de ce sujet parce qu'il est apparu cette semaine avec cette étude d'ECRA. Sans doute qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque ça fait partie des sujets qui reviennent régulièrement. Allez, tout de suite, et merci à tous nos invités d'avoir été
Laurence,
avec nous. Patrice.
Merci Laurence, merci Pierre.
Bonne journée.
Vive Sud Radio.
Ah, c'est bien.
Radio qu'il faut écouter parce que toutes les vraies infos sont dessus. Merci à tous les deux.
Et nous, on
merci
est d'accord.
À vos auditeurs. À bientôt.
Sud Radio, ça roule.
Et ça roule aussi, enfin, des fois, d'ailleurs, ça ne roule plus parce qu'on vous a volé votre voiture. On voulait évoquer ce sujet, alors il y aura plusieurs angles qui vont vous être proposés aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous allons évoquer le parcours d'une voiture volée avec une dépanneuse spécialiste qui travaille avec la police, qui travaille avec la fourrière. Mais tout de suite, Pierre, eh bien, on voulait vous donner une bonne astuce pour essayer, en tout cas, d'éviter au maximum de vous faire voler cette voiture parce que, ça y est, le jour est plus court, entre autres.
Mais ça se raccourcit et on le sait tous, la nuit, à la nuit tombée, eh bien ça y est, les problèmes commencent. Problèmes de sécurité routière, mais lorsque votre propre voiture est garée, eh bien vous avez davantage de risques dans des zones de non-visibilité de vous la faire voler. Donc faites attention, les conseils de base, je vais vous les redonner. Une petite canne sur le volant si vous voulez vous protéger, oh, c'est pas ce qui va arrêter 99% des voleurs, mais ça va limiter quand même. Et puis si vous voulez aller plus loin, eh bien vous vous tournez vers Jérôme Arnac par exemple.
Qui est avec nous, Jérôme Arnac, bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre.
Directeur marketing et produits de chez Coyote. Alors évidemment, on vous fait la part belle parce que vous avez mis au point un objet, un outil qui est hyper pratique, c'est le fameux Coyote Secure. Mais juste avant d'en parler, revenons un peu sur les chiffres. On avait les chiffres de 2020. Malgré le confinement, on est quand même à plus de 121 000 voitures, véhicules qui ont été 121 000, voilà, je vais y arriver. Bref, véhicules qui ont été volés. Et voilà, on se rend bien compte que confinement, pas confinement, le vol de voitures reste un jeu et un sport favori de certaines filières.
Oui, le vol a effectivement en 2020 finalement très peu baissé en France malgré les confinements, avec un rebond notamment avant l'été l'an dernier, et puis aussi un nouveau rebond après l'été à partir de l'automne, où on a vu un mois de septembre record. Donc effectivement les filières du vol ne sont pas arrêtées et on a toujours ce chiffre et cette fréquence un peu phare qui est de un véhicule volé toutes les 4 minutes en France. Voilà, ça reste l'ordre de grandeur et ça reste très important.
Où est-ce qu'on se fait le plus voler notre voiture en termes de probabilité, Jérôme ? C'est où ? C'est dans les petits villages ? C'est dehors ? C'est quand dans des rues sombres ? Ou au contraire, c'est à la vue de tout le monde ?
Alors, les vols, déjà, il y en a 70% qui ont lieu la nuit. Donc ça, c'est sûr que voilà, la nuit, c'est la période à risque, c'est sûr. Et donc, quand les jours se raccourcissent, effectivement, on rentre dans des périodes propices. Après, tout le monde est finalement concerné par le vol. Il y a des vols en zone rurale, il y a des vols dans les grandes agglomérations. Alors évidemment, compte tenu de leur densité, de leur volume, c'est là qu'on a le plus de volume, mais finalement, ce qu'on observe, c'est que le vol concerne absolument tout le monde. Il est à 80% électronique.
Ah ouais.
Pierre, tout à l'heure, parlait de la canne. Globalement, il y a tout un tas de mécanismes anti-vol qui existent, qui sont là pour prévenir le vol. Ce qu'on observe, nous, c'est qu'aucun n'est infaillible, malheureusement, aujourd'hui. Et notamment, voilà, les protections électroniques des véhicules peuvent être déjouées par des filières qui industrialisent des modes opératoires. Et effectivement, ça devient très technologique. Nous, Coyote Secure, on est leader d'une solution de récupération après vol. Donc c'est un parti pris différent, ça consiste à se dire, on ne peut pas toujours éviter que le véhicule se fasse voler.
Oui.
Coyote Secure va permettre de le récupérer dans les 48 heures qui suivent. Une des solutions alternatives, si on veut se couvrir, c'est de mettre un traceur dans sa voiture.
Alors, on y vient. Alors, le Coyote Secure, comment ça marche ?
Ben écoutez, c'est le Coyote Secure, c'est effectivement le service leader de la récupération après vol en France. On a un historique de plus de 20 ans sur le sujet. On a développé des technologies très pointues. C'est deux choses, Coyote Secure. C'est un traceur équipé des dernières technologies qui vont nous permettre deux choses. D'avoir un traceur totalement autonome qu'on va dissimuler dans le véhicule. Il n'est pas branché, il n'est pas connecté puisqu'il a une autonomie de 4 ans. Ça nous permet de le dissimuler complètement, donc c'est totalement furtif. Et en cas de vol, ce traceur va permettre à nos équipes de détectives qui sont sur le terrain, qui sont activables 24 heures sur 24, ces équipes en cas de vol, quand le client Coyote Secure nous appelle, elles vont se mettre immédiatement en track, elles vont aller sur le terrain, et grâce à nos technologies, elles vont être capables de localiser le véhicule, même si le véhicule atterrit, comme c'est souvent le cas, caché au deuxième sous-sol d'un parking. On a des technologies qui vont nous permettre d'aller le localiser et de le récupérer ensuite en faisant appel aux forces de l'ordre.
C'est top, hein, Pierre.
Ouais, bah c'est juste génial, Laurence, pour faire simple, c'est quasiment l'intégralité des véhicules qui sont retrouvés en moins de 48 heures. C'est vraiment un système qui fonctionne du feu de Dieu. Par contre, Jérôme, moi j'ai une question. Vous voulez pas me poser un petit tracker sur mes clés de bagnole parce que je sais jamais où je les ai mises.
Alors, il existe, Pierre, des petits systèmes pour retrouver ces clés de voiture, mais pour conclure, avant de parler du parcours de la voiture quand il est volé avec une dépanneuse spécialisée, on va quand même parler des prix, parce que voilà, c'est pas gratuit, hein. C'est soit 9,99€ par mois avec un engagement de 2 ans, soit vous payez une formule annuelle à 119€ par an. Voilà, vous avez des frais de mise en service qui sont à peu près de l'ordre de 199€, mais vous êtes sûr de récupérer votre voiture et je peux vous dire...
Il y a un autre truc, Lolo. c'est que dans cette offre, si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas une bêtise, sinon Jérôme va mettre une énorme fessée, mais je crois que l'abonnement au service Coyote de navigation qu'on connaît tous, l'outil d'aide à la conduite communicant, je crois qu'il est offert.
C'est ça.
Alors, vous avez en fait différentes offres. Si vous allez, vous pouvez acheter Coyote Secure tout simplement aussi auprès de votre concessionnaire quand vous achetez un véhicule neuf ou d'occasion. Là, il vous fera une offre qu'on fait en concession qui va inclure l'aide à la conduite, effectivement, de D'accord. l'application Coyote. Top. Après, l'offre dont a parlé Laurence, c'est une offre qui ne contient, entre guillemets, que Coyote Secure. Et on a aussi, renseignez-vous aussi, pour ceux que ça intéresse, on a aussi de plus en plus de partenariats avec les assurances. Donc, dans certains cas,
super,
vous pouvez vous renseigner auprès de vos assurances fortes si on est partenaire.
Merci beaucoup Jérôme Arnac de chez Coyote. Voilà, c'est une des solutions qu'on vous propose. Oui, ça fait un peu publicité, mais avec Pierre, on l'assume. Parce que si ça peut vous permettre de récupérer votre voiture, eh ben, on aura fait aussi notre job. Merci Jérôme, bonne journée.
Clairement, c'est la période. Donc, on sait tous que certains vont voleurs, les petites entreprises qui ne connaissent pas la crise, elles vont profiter de ce moment pour voler les voitures. Donc, on a souhaité avec Laurence vous donner un bon conseil. C'est de protéger vraiment votre auto. Et je le rappelle, surtout pas la carte grise dans la voiture.
Non.
Ça, c'est le conseil à retenir, parce que si vous la faites voler avec une carte grise, eh bien, ça devient de l'abus de confiance peut-être, mais le voleur pourra très bien la remettre à son nom derrière. Et là, c'est les pires problèmes.
Et puis Pierre, comme on connaît maintenant les nouveaux systèmes de vol, même si vos clés de voiture sont à l'intérieur de la maison, mettez la clé de voiture le plus loin possible de la porte d'entrée ou du passage façade de votre maison avec leur nouveau système.
Faut l'enterrer dans le jardin.
Non, mais au moins, tu le caches quelque part. Allez, tout de suite, parce qu'il nous reste plus que 3 minutes, il faut qu'on aille très très vite. Merci à Jérôme Arnac de chez Coyote. Christine Delaunay est avec nous. Bonjour Christine.
Bonjour Laurence.
Merci. Puis ensuite, on a Olivier qui nous appelle au 0826 300 300 qui, lui, va nous raconter, il s'est fait voler sa BMW. Il va nous raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Alors Christine, vous êtes les dépanneurs Delaunay et Fils. Vous êtes situés à Varennes-Gercy, c'est dans le sud-est de l'Essonne, du département d'Île-de-France. Vous avez une société de dépannage spécialisée et qui travaille avec la fourrière et la police pour le vol des véhicules. Racontez-nous un peu le parcours d'une voiture quand elle est déclarée volée et qu'elle est surtout retrouvée d'ailleurs, quel que soit l'état.
Donc quand elle est retrouvée, les forces de l'ordre l'identifient et appellent donc une société comme la mienne afin de l'enlever de la voie publique et de la parquer dans un parc avec traces et indices à conserver jusqu'à ce qu'ils viennent faire des relevages d'empreintes. Et ensuite, ils informent soit le propriétaire, ou si c'est un véhicule qui est volé depuis plusieurs semaines, ils en informent l'assurance qui en devient propriétaire si le propriétaire a été indemnisé.
Mais alors après, parce qu'en préparant l'émission, vous m'avez parlé évidemment de fourrière, vous m'avez parlé de revente de la voiture, c'est-à-dire que des voitures volées peuvent être revendues aux enchères. Et là, moi, Pierre, je ne sais pas si tu savais ça, toi.
Ouais, et puis elles peuvent aussi partir à l'étranger, ça arrive malheureusement souvent. Donc quand on retrouve des voitures avant qu'il se passe ce genre de catastrophe, eh bien effectivement, vous intervenez, les dépanneurs. Moi, la question que je me pose, c'est quand vous avertissez quelqu'un que la voiture est retrouvée, comment ça se passe? C'est vous, les forces de l'ordre?
Alors,
vous avez affaire aux clients quand vous ramenez la voiture?
Non, du tout. Alors nous, au départ, quand on est appelé par les forces de l'ordre pour remorquer un véhicule qui est volé, on a affaire qu'aux forces de l'ordre, car nous n'avons pas accès au CIV pour savoir si le véhicule est volé ou pas volé.
Dont dispose la police pour savoir à qui appartient le véhicule.
Le système immatriculation, le CIV.
Voilà, il n'y a que les forces de l'ordre qui ont accès à ce système. Donc nous, on ne connaît pas ni les coordonnées du propriétaire, ni de l'assurance, ni depuis quand le véhicule est volé, quand il est identifié tout de suite sur place.
Ouais.
Quand c'est un véhicule brûlé, les véhicules sont mis dans mon parc, dans un parc spécial véhicule brûlé. Et là, on recherche le numéro de série. Donc soit on fait appel à une société spécialisée qui est Argos, qui eux, ils ont plusieurs possibilités pour identifier un véhicule. Ils savent où se trouve le numéro de série ou d'autres numéros ailleurs sur la boîte, par exemple, ou sur le moteur. Et ils ont, eux, la possibilité d'identifier
le véhicule.
Ouais. Mais une fois que le véhicule est identifié, c'est les forces de l'ordre qui, eux, préviennent le propriétaire ou l'assurance. Nous n'avons toujours pas les coordonnées. C'est quand le propriétaire appelle, C'est à ce moment-là que nous savons qui est le propriétaire, ses coordonnées, ou si c'est l'assurance qui est devenue propriétaire.
Christine, voilà. Vous parliez aussi de vente aux enchères, c'est ça, ça m'étonne.
Alors, il y a un système qui a été mis en place depuis l'année dernière, qui s'appelle le SI Fourrière. C'est le système d'information nationale des fourrières en automobile.
Oui.
Donc, sur ce système qui a été créé par le ministère de l'Intérieur, c'est pour gérer tous les véhicules qui sont enlevés en fourrière sur tous les départements maintenant, puisque le logiciel a été déployé sur tous les départements. Et nous pouvons également rentrer sur ce système d'information les véhicules volés. Il faut savoir que quand un véhicule appartient à l'assurance, bien souvent les assurances sont très 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 longues avant de gérer le dossier.
D'accord.
Et du coup, le système d'information nationale des fourrières en automobile est un système donc créé par le ministère de l'Intérieur et tout se fait un peu en automatique.
D'accord.
Ah, donc, parce qu'on explique en fait le véhicule est volé, le propriétaire s'il est volé trop longtemps et donc pas retrouvé, eh bien le propriétaire va avoir une indemnisation par l'assurance, mais lorsque le véhicule est retrouvé, il appartient à qui en fait ? Il appartient plus à personne.
Non, il appartient soit au propriétaire qui décide de le garder, soit il appartient à l'assurance qui, parce que le propriétaire ne veut pas le garder. C'est ça, hein ?
Vous avez des assurances, ouais. Quand le véhicule n'est pas retrouvé dans les 20 jours ou dans les 30
c'est
jours, il y a un dossier qui est ouvert, que l'assurance crée, pour indemniser le propriétaire.
D'accord.
Et à ce moment-là, le fait que le propriétaire du véhicule soit indemnisé, le véhicule devient la propriété de l'assurance.
Oui, c'est ça.
Voilà. Voilà pourquoi l'assurance derrière a la tentation de cette vente aux enchères qui lui permet de ne pas avoir à gérer une flotte de véhicules qui ne sert plus à rien.
Oui, et puis de récupérer un peu de sous par rapport à ce qu'il a donné à l'assuré. Merci beaucoup, Christine. Juste, on va prendre Olivier de Bocard parce que l'émission passe très très vite ce soir. On a déjà pratiquement terminé. Bonjour,
Bonne
Olivier.
Bonne journée à vous.
Merci
Bonjour.
Beaucoup, Christine. Merci de toutes ces explications. Dépanneur Delaunay et Fils à Varennes-Jarcy et font partie de l'association Fiers d'être dépanneur. Olivier de Bocard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Olivier, malheureusement, je vais vous laisser une petite minute pour nous raconter votre histoire.
Voilà, on m'a volé la voiture et j'ai déposé une plainte. Je l'ai retrouvée moi-même à 40 km 20 jours plus tard.
Ah, vous-même ?
Sur le bord d'une route.
Tout seul ?
Sur le bord d'une route. C'est mon frère qui l'a vu en réalité. Il m'a appelé au téléphone pour me dire sa voiture. Maintenant, ça ne se produirait plus parce que même les assurances maintenant sur certaines marques de voitures obligent. Mon fils travaille chez une marque allemande, hein, donc toutes les voitures sont équipées d'origine avec un mouchard qui, avec leur téléphone, ils peuvent savoir où est la voiture, qui a le plein d'essence, si les portes sont allumées, si les portes sont ouvertes, et ça devient une obligation chez certaines assurances pour ce véhicule.
Je crois que c'est BMW,
BMW, oui, effectivement. Il y a quelques minutes auparavant, effectivement, sur certaines voitures, on pose ce genre de petits boîtiers de ce type qui permettent de retrouver les véhicules. L'abonnement, lui, il est activé par l'automobiliste. Mais la plupart du temps, lorsque vous achetez une voiture un peu luxueuse, eh bien, le concessionnaire peut vous activer au moins sur les premières années.
C'est d'origine.
Olivier, elle n'était pas abîmée, votre BM, pour conclure, vous l'avez retrouvé en bon état ?
La portière, la serrure cassée, ben ils l'ont abandonné parce qu'il n'y a plus d'essence.
Ah, d'accord.
Apparemment, c'était déjà...
Eh oui, l'essence, ça vaut trop cher.
Mais pas, ça va, mis à part la portière, il n'y a pas eu trop de dégâts.
Non, mais il y avait le Neyman cassé, et voilà, non, c'est
d'accord.
Tout. Il y avait,
ça s'est plutôt pas trop mal terminé. Hein. Parce que moi, la mienne...
Ils n'ont pas pu ouvrir l'essence, et peut-être pas les outils.
La mienne, ils n'ont pas pris l'essence, mais ils l'ont déshabillée complètement, puis moi, j'ai des potes, leur voiture, ils l'ont retrouvée, ils s'en servaient en bélier pour aller défoncer des choses. Hein. Merci beaucoup,
mon
Olivier.
Mon neveu vient de se faire voler sa Clio, elle était désossée.
Eh ben voilà, comme la mienne, comme ma DS3. Merci, Olivier, je vous presse un peu, mais on arrive pratiquement à la fin de notre rendez-vous et juste après, dans quelques instants, eh bien on va accueillir Bernard qui nous appelle de Gironde et qui veut échanger avec toi Pierre, puisque c'est ce moment privilégié où Pierre Chasseret met sa casquette de DG de 40 millions d'automobilistes et échange avec vous sur ce qui vous amuse, ce qui vous énerve, ce qui vous agace, ce que vous n'aimez pas de la politique routière ou de ce qui se passe sur les routes de France. À tout de suite.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et pour conclure notre rendez-vous Sarroul le dimanche soir, juste avant l'info de 19h sur Sud Radio, Pierre, voici le venu, le moment de l'échange entre toi et quelqu'un qui veut évoquer un sujet propre à la route. Et c'est tout de suite Bernard, sans plus tarder, que nous accueillons. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Bonjour.
Oui, mais moi je suis un peu affolé de voir tous ces jeunes et moins jeunes prendre le volant sous l'effet de l'alcool. Moi ça me, je comprends pas. Je suis bénévole à la sécurité routière. Je fais de la prévention auprès des gens pour leur dire mais arrêtez, vous choisissez soit conduire, soit boire, mais on reste à la maison si on a trop bu quoi. Mais c'est affolant de voir les accidents que l'on peut voir sous l'effet de l'alcool et sous l'effet du cannabis. Voilà.
Alors sur le constat, on est d'accord. Vous nous proposez quoi alors ?
Ah ben moi je propose que l'on généralise l'anti-démarrage sous test de l'alcoolémie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démarrer la voiture si on est sous l'effet de l'alcool. Parce qu'il faut passer à des directives vraiment. Vraiment importante quoi. On peut pas continuer à laisser continuer à conduire les gens sous l'effet de l'alcool quoi. Il faut arrêter.
Alors vous avez raison sur le constat. Je le partage à 100%. Évidemment, il va falloir que l'État se remette à mettre en place, à mon avis, une police de la route et des contrôles solides en donnant des moyens aux forces de l'ordre sur la lutte contre l'alcoolémie et les stupéfiants au volant, j'ajoute. Mais en revanche, je ne suis pas d'accord sur le constat qui consiste à placer un antidémarreur sur tous les véhicules. Parce que vous allez augmenter le coût de l'automobile pour tout le monde, alors que les gens qui roulent ivres au volant ne représente qu'une part extrêmement minoritaire de la population. Donc pour 2% de la population, on va punir 98% en leur faisant acheter des systèmes d'antidémarrage qui valent quasiment 1000 euros sur la voiture.
Au-delà
de ça, Bernard et Pierre, moi c'est un autre souci, excusez-moi tous les deux, c'est surtout que moi je suis, imaginez, j'ai trop bu, j'ai quelqu'un avec moi qui va souffler dans le démarreur anti-démarrage,
exact.
Et lui il a pas bu, et ben la voiture elle démarre et je peux prendre le volant.
Pire encore Laurence,
vous voyez Bernard,
vous avez des
on
bombes
a une limite
qui
là-dessus.
Existent sur internet pour contourner le système, c'est des bombes qui reproduisent le souffle humain, c'est-à-dire que celui qui a décidé de conduire bourré, il met une coude, non mais je sais qu'il faut être un peu ravagé pour acheter ce genre de choses, mais vous avez des gens qui achètent ces bombe à souffle dans d'autres pays parce que ça permet de contourner l'antidémarreur. Donc en fait, c'est la fausse bonne idée. Ça punit tous les gens bien et malheureusement, ça laisse conduire les gens bons.
Bernard ?
Oui, mais oui, je peux vous répondre parce que j'aime comme un argument.
Oui.
Le fait d'arrêter quelqu'un sur un contrôle autoroutier et de le faire souffler, de le tester positif, par exemple un gramme 2, et puis bon, il va avoir la procédure, il va être jugé et tout ça. Ça n'empêche pas, quand il aura payé sa peine, de recommencer. Et ça, y en a ras-le-bol, parce que je connais des cas, et je connais un cas précis qui s'est passé en Dordogne il y a 3 ans, où dans la nuit du réveillon, le gars il avait suspension du permis pour alcoolémie, il a été se flanquer contre un platane une voiture, sans permis. Il est mort. Enfin, il faut arrêter, quoi. Donc,
mais vous avez raison, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une justice qui n'a pas encore pris conscience des moyens qui sont à mettre en œuvre. J'ai envie de vous dire, le problème, c'est que quand vous attachez un antidémarreur à une voiture, eh bien, rien n'empêche celui qui a été condamné de prendre une autre voiture pour démarrer.
Oui.
Il faut attacher la présence de l'antidémarreur
à
celui
c'est
qui est incriminé, celui que l'on doit véritablement traiter.
Oui, mais
il y a des moyens
qui
existent, des applications connectées, on en connaît pas mal avec Laurence, qui permettent ça. Attacher un véhicule, ça n'empêchera pas celui qui a été pris en récidive alcoolémie d'utiliser une autre voiture, voire même de prendre la voiture de l'entreprise et de rouler avec.
Pierre
donc
et Bernard,
il y a quelque chose à faire sur l'alcoolémie, mais il faut prendre la bonne décision. Il ne faut pas punir toute la classe
quand vous avez
un mauvais élève.
Pierre et Bernard, attention, l'Europe roule de plus en plus. C'est tombé au mois d'octobre pour le taux zéro au volant. Hein, et si Bruxelles. Pour l'instant, voilà. Donc, mais en tout cas, Bernard, moi, enfin, de toute façon, on ne peut être que d'accord avec vous. Il y a un vrai souci. C'est même une histoire de bon sens. C'est si on boit plus de 2 verres, on ne prend pas le volant. Alors, je ne parle pas de grands verres. Hein, je parle de verres classiques. On laisse le volant à quelqu'un. On prend des taxis. On prend des Uber. Il existe maintenant pléthore de moyens pour ne plus prendre le volant alors qu'on a un peu trop bu. Je suis d'accord avec vous.
Oui, Lolo. Ou alors, on attend un petit peu, tout simplement. On laisse vraiment décuver un peu si on a pris 3 verres. Eh bien, on patiente une une heure, deux heures ou trois heures de plus chez quelqu'un et on part dans de bonnes conditions.
Où on dort chez quelqu'un.
Tester. Malheureusement, il faut tester.
Merci beaucoup Bernard d'être intervenu sur ce sujet qui est plus qu'important et de l'avoir partagé avec nous. Voilà, c'était le coup de gueule de Bernard pour terminer Ça roule. Merci à vous Bernard en Gironde. On vous souhaite une très très belle fin de week-end. Pierre, on se retrouve dimanche prochain.
Eh oui, dimanche, mais c'était important hein, parce que ça permet de voir que souvent, on peut prendre la mauvaise décision en termes de mesures en voulant répondre à une très bonne problématique.
À dimanche prochain, passez tous une très belle fin de week-end et évidemment une bonne semaine avec Sud Radio. Bye bye!